Alors, c'est un rendez-vous de réflexion sur la notion de récit de Genèse, qui n'est pas un concept entièrement constitué, mais qui est souvent utilisé pour parler de la phase interprétative dans le travail génétique. Donc, je voudrais essayer de fixer quelques cadres pour préciser la manière dont je l'interprète. Je crois qu'il faut commencer par rappeler les grandes orientations de la génétique, ce qui l'oppose à d'autres méthodologies d'approche du texte. La génétique des formes, d'ailleurs, autant que des textes, elle est spécifique dans sa démarche par une place spéciale dans le panorama post-structural des différentes méthodologies qui ont pu apparaître à l'époque du moment théorique, hein, les années 60-70. Vous savez que c'est une époque où les sciences de l'homme se sont mis à investir massivement le champ de la critique littéraire en donnant des spécialités, l'analyse psychanalytique, l'analyse sociologique, ethnologique, etc. Dans ce champ, l'histoire littéraire a survécu avec ses anciennes méthodes, qui étaient faites de quoi ? Essentiellement en critique des sources, biographisme, théorie de la mimesis, c'est-à-dire un texte imite toujours un autre texte, et originalité par différenciation par rapport au modèle. En gros, Molière imite un auteur italien, il faut savoir de quelle pièce l'a inspiré. Une fois qu'on a trouvé la pièce, on compare la pièce de l'italien avec celle de Molière, on voit les différences et on dit, ben voilà, l'originalité de Molière, c'est ça. Tout ceci continue, existe encore et même réexiste au-delà de ce que ça pouvait être dans les années 80 par le fait que le mouvement structuraliste a progressivement décliné et a laissé un espace à la résurgence des méthodologies anciennes. Par rapport à cette situation, la génétique est apparue comme une des seules grandes innovations théoriques dans la période post-structurale. Et sa singularité tient au fait fondamental que, alors que la méthodologie classique ou moderniste s'interroge sur le texte, la génétique s'interroge sur ce qui précède le texte. La critique littéraire est largement fondée sur la fiction du texte comme temps zéro. C'est une épiphanie. L'œuvre, c'est le livre au sens biblion, hein. C'est le texte, c'est-à-dire la parole de Dieu en réalité. L'auteur étant pensé inconsciemment dans une métaphore divine. Le texte arrive un petit peu comme une parole révélée, dont il est presque scandaleux de s'interroger sur la Genèse, puisque c'est un chef-d'œuvre. Il ne faut rien y enlever, rien y ajouter. Et finalement, en résulte toujours la fiction, une sorte d'instantanéité de l'œuvre. Elle est comme une structure close sur elle-même, parfaite, et c'est ça, cette perfection qui est réalisée. Par rapport à ce temps zéro qui est celui donc d'une sorte d'admiration dont on va voir en fait qu'elle sert surtout les bénéfices du critique, deux autres formes de critique se sont développées dans la période post-structurale. La critique de la réception, qui serait celle du temps plus N, le devenir de l'œuvre dans d'abord son accomplissement par rapport à un horizon d'attente, puis ensuite dans le devenir de ses lectures. Et la critique génétique, qui serait un petit peu le pendant, le symétrique de l'autre côté de l'axe du temps, T-N, quoi. L'œuvre littéraire conçue comme processus, conçue comme phénomène temporalisé d'accomplissement, de naissance, d'accomplissement et de finition du texte. Alors, par rapport à cette situation, la génétique, d'une certaine façon, a été marginalisé volontairement par les institutions universitaires, parce que les deux attitudes ont été de dire, Non, mais ce que vous faites, c'est intéressant si on veut, mais c'est pas vraiment ce qui est le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est l'œuvre, le texte, puisque vous avez besoin de vous occuper de tous ces scories, ces machins qui sont même pas faits, finis, enfin, donc, qui ressemblent à rien. Bon, ça, c'est une attitude. L'autre attitude étant, ah ben oui, mais vous faites de la génétique, en fait, vous faites ce qu'on fait depuis toujours, on s'intéresse aux manuscrits, on fait de l'analyse des projets depuis longtemps, vous avez redécouvert simplement nos vieilles méthodes. En réalité, les tentatives numéro 2 d'annexion par le principe « vous ne faites que ce qu'on a toujours fait » avaient pour vocation de faire de la génétique une science auxiliaire. Une science auxiliaire au même titre que pouvait être auxiliaire des méthodes d'aide à l'approche littéraire des œuvres. Je crois qu'il faut revendiquer clairement que la génétique n'est pas une science auxiliaire. Elle a même vocation, et c'est donc le renversement de ce que je disais tout à l'heure, à une certaine visée impérialiste sur T0 et sur T+N. C'est-à-dire sur l'ensemble des méthodologies critiques et sur l'ensemble du point de vue de la réception. De cette façon, si la génétique va au bout de sa logique, elle doit être capable d'expliquer ce que chacune des disciplines de la méthodologie d'approche des textes, qu'elle soit sociologie, psychanalytique, historique, linguistique, etc., apporte à la genèse de l'art, et puis elle doit être capable de comprendre pourquoi certaines œuvres traversent le temps et d'autres non, vraisemblablement, très largement, en raison de la programmation que la genèse de l'œuvre a fait en transformant l'œuvre en une sorte de véhicule capable de traverser les modes, les temps, et en faisant la théorie du chef-d'œuvre, c'est-à-dire de l'œuvre qui résiste aux transformations des cultures, des psychés, des langues, etc. Donc, d'une certaine façon, la modestie de la génétique, elle a pour réciproque une très grande ambition, qui est celle d'intégrer à ses moyens tous les moyens de la critique textuelle fondée sur les sciences de l'homme, tous les moyens de ce qu'était l'histoire littéraire et tous les moyens de ce que revendique la critique de la réception. Alors, à l'intérieur de ce cadre, qu'est-ce que c'est que le récit de Genèse ? Le récit de Genèse, c'est quelque chose qui serait à la jonction entre la recherche génétique qui va porter sur un corpus, une recherche essentiellement sur les manuscrits, puisqu'on est en littérature ici, et la communication ou la transmission de cette recherche, des résultats de cette recherche. Qu'est-ce que cette recherche donne en termes de résultats ? C'est ce que le récit de Genèse devra mettre en scène par une sorte de récit qui serait aussi une discussion, une argumentation logique, des conclusions, si vous voulez, argumenter. Alors, pour définir ce que doit être, ce que peut être un récit de Genèse, je crois qu'il faut revenir à la définition de la génétique. La génétique, c'est un discours scientifique sur la naissance, la réalisation, les transformations, les métamorphoses, la finalisation et la diffusion d'une œuvre telle qu'on peut reconstituer tout ça d'après des traces concrètes. Les traces de la Genèse, c'est-à-dire des documents, des manuscrits, toutes sortes de matérialités avec lesquelles se constitue la recherche proprement dite. Et si c'est une recherche indicielle, de traces, alors je crois qu'il faut aller jusqu'au bout dans les métaphores qui nous servent souvent à expliquer ce que c'est que la génétique. La génétique, c'est un peu l'équivalent de l'enquête policière. Si on parle d'une science indicielle, au fond, vouloir reconstituer la Genèse, c'est vouloir reconstituer la scène du crime, trouver le coupable, savoir dans quelles circonstances le crime a eu lieu, pour quelles raisons, dans quelle temporalité, avec quels instruments, etc., etc. C'est la figure du généticien en détective privé, genre Sherlock Holmes, ou Hercule Poirot, ou même commissaire Maigret. Et si on reprend par exemple la figure d'Hercule Poirot, le généticien, c'est celui qui, exactement comme Hercule Poirot dans Mort sur le Nil ou bien dans Le Crime de l'Orient Express, réunit tout le monde à la fin de l'histoire et va se mettre à raconter, à reconstituer le crime en racontant étape par étape, d'une manière dramatique, hein, ce qui s'est réellement passé, contrairement aux apparences, et en mettant chacun, au fond, devant ses responsabilités, chacun des personnages étant là, avec pour le récit de l'argumentation de la constitution de ce crime, tout le suspense qu'il faut, c'est-à-dire que tour à tour, on va penser que c'est machin qui a tué réellement, ou machine, ou voilà, puis finalement non. On apprend par exemple que c'est peut-être tous à la fois qu'ils ont tué, ou bien c'est pour des raisons différentes que différentes personnes ont tué. Ça. Donc, le récit de Genèse, c'est ça. Le récit de Genèse, c'est le moment où l'enquête ayant eu lieu, tous les éléments étant réunis, toutes les preuves étant là, ou assez de preuves étant là, on peut conclure sur ce qu'a été réellement le scénario qui a fini par produire l'œuvre. Et on le fait en présence des témoins, hein, avec sur place tous les gens, c'est-à-dire concernant la Genèse, tous les indices, tous les blocs de sens présents. Autre analogie avec l'enquête policière, l'analyse génétique et la différence de l'histoire littéraire, de la critique textuelle, s'habitue depuis toujours à une certaine scientificité matérielle. Hein. Comme la police scientifique, on utilise l'analyse matérielle des manuscrits, la codicologie, la datation, l'étude des encres, des supports, etc. On est assez proche, hein, des méthodes policières. D'ailleurs, la police a souvent fait appel dans ses recherches aux généticiens du texte. Alors, si cette situation est bien celle-là, quelle est la place, je crois que c'est la première question qu'il faut se poser, quelle est la place du récit de Genèse dans les opérations de recherche génétique? Je rappelle que la génétique est constituée de deux grands moments. Toute opération de recherche en génétique est constituée de deux grands moments. Une première phase qui relève de l'analyse des manuscrits et qui, en principe, doit être aussi éloigné que possible de toute tentation herméneutique, interprétative. Cette phase, je résume rapidement, mais c'est fondamental, hein, elle est celle de la constitution du dossier de Genèse et de l'authentification des pièces. Au premier moment, si on se donne, je ne sais pas, par exemple, le projet d'analyser la Genèse d'un roman, on va réunir, on va constituer le dossier, c'est-à-dire réunir d'une manière tout à fait exhaustive tout ce qu'on possède comme élément se rapportant à la genèse de cette œuvre, avec d'un côté le dossier de Genèse proprement dit, les brouillons, les plans, les scénarios, les épreuves corrigées, enfin tout ce qui est véritablement la genèse de l'œuvre, et puis à côté des documents qui ne sont pas le dossier de Genèse, mais qui peuvent être très importants, la correspondance, des témoignages d'amis, des témoignages divers sur la Genèse de l'œuvre. Deuxièmement, c'est la deuxième étape de cette première phase d'analyse des manuscrits, la spécification des pièces selon les catégories fonctionnelles de la genèse. Exogenèse, endogenèse, tout ce qui relève de la documentation, tout ce qui relève de la structuration, les plans, les scénarios, etc., tout ce qui relève de la textualisation. La rédaction, les différentes formes d'évolution de la forme rédigée. Naturellement, c'est la phase aussi où on va élaborer la définition du régime d'écriture de l'œuvre. Est-ce qu'il s'agit d'un programme fondé sur la structuration scénarique ou scénaristique, l'existence d'un plan initial qui va piloter la rédaction, ou est-ce qu'au contraire, on est de l'autre côté, côté du programme ou du déclenchement rédactionnel, c'est-à-dire quelque chose sans plan, qui s'improvise et qui, pour l'écrivain, constitue le besoin d'entrer en rédaction avant même d'avoir une idée précise de ce qu'il veut scénariser comme histoire. Entre les deux formes, en gros le modèle Flaubert scénaristique, le modèle Stendhal rédactionnel, toutes sortes de variantes et de degrés sont possibles, évidemment. Troisième étape de cette phase d'analyse des manuscrits, qui est toujours, je vous le rappelle, non interprétative, le déchiffrement, la datation des pièces et le classement génétique, c'est-à-dire chronogénétique, du dossier, c'est-à-dire de tous les éléments, de chacune des quatre phases de la genèse, c'est-à-dire la genèse pré-rédactionnelle, celle du plan, du scénario, etc. La genèse rédactionnelle, la phase qui constitue le moment de textualisation. La troisième phase pré-éditoriale, c'est-à-dire tout ce qui va dans la finalisation qui précède l'apparition du texte, pour prendre de l'édition. Et puis la phase éditoriale, qui constitue une phase très importante en génétique, puisque la genèse ne s'arrête pas à la première édition d'un texte, mais continue dans toutes les éditions du vivant, et même après la mort de l'écrivain, sous un régime non auctorial. Alors, ces trois phases qui sont de la recherche non interprétative en génétique, au fond, aboutissent à la quatrième, qui est celle de la transcription. Moyennant quelques présupposés scientifiques et des normes éditoriales qu'on s'est fixées, la transcription, en principe, ne constitue pas une interprétation, elle est la lisibilité et la communicabilité assurée de documents qui jusque-là étaient indéchiffrables. En gros, parce qu'ils n'étaient pas classés, parce qu'ils n'étaient pas déchiffrés. Là, avec la transcription, qui n'est pas toujours nécessaire, dans certains cas, on aura juste eu besoin de déchiffrer, de lire. Dans d'autres cas, on va aller jusqu'à l'édition des documents génétiques, et à ce moment-là, il y aura la transcription. Mais on n'est pas encore dans la phase interprétative. On est dans une série d'opérations scientifiques qui trouvent donc leur aboutissement dans une transcription ordonnée, classée des documents. Puis arrive la deuxième grande opération de recherche qui consiste à interpréter, à faire l'herméneutique de tous ces résultats. C'est ce qu'on va appeler la phase de l'avant-texte. On est bien d'accord, le premier geste interprétatif consiste à dire tout ce que je viens de mettre en œuvre, c'est l'avant-texte. Mais l'avant-texte est une entité abstraite. Il n'a jamais existé en dehors du geste critique qu'il a produit, en remettant ensemble dans l'ordre, bien transcrit, les documents que l'écrivain avait sur son bureau et par, ou n'avait pas d'ailleurs, enfin, en pile ou dans une corbeille. Cette mise en ordre, cette mise au clair et cet ordonnancement des pièces est une fiction. C'est une fiction vraie, mais c'est une fiction théorique. Et elle n'existe nulle part en dehors du geste critique qui l'a produite. Elle est produite, cette clarté. Sur la base de cette fiction théorique, va pouvoir se construire une herméneutique des résultats. Alors, là, c'est une des questions absolument majeures pour commencer à parler sérieusement de récit de Genèse. Il y a trois hypothèses. L'herméneutique des résultats, elle va de toute façon exiger que le critique généticien s'exprime sur ses présupposés méthodologiques, sur la façon dont il part à la découverte du sens, naturellement avec des outils interprétatifs. Il y a une donnée, quoi qu'il a réuni, mais il y a aussi des outils. Et il y a trois cas possibles d'outils. Soit on a affaire à une herméneutique génétique mono-méthodologique. C'est-à-dire le critique dit, voilà, moi, je suis spécialiste de psychanalyse, je suis aussi généticien, j'ai réussi à déchiffrer, à classer tous les brouillons, tous les documents de cette œuvre, mais ce qui m'intéresse dans cette œuvre, c'est l'inconscient. Donc je vais faire une lecture de toutes les ruptures, les transformations, les métamorphoses, du point de vue de l'inconscient, du point de vue toutes ces transformations me racontent sur l'inconscient du texte, sur l'inconscient de l'écrivain, sur... Ok. Ou bien, c'est un sociologue. Et il va dire, moi, j'ai fait toute cette analyse objective pour pouvoir aujourd'hui, comme sociologue, pister tout ce qui est en train de se construire dans les brouillons, comme traces des rapports de force sociaux, des contradictions... politico-social qui se joue au moment de l'écriture de ce texte et dans ce texte et des visions de société. Ça. Bon, je peux décliner toutes les sciences comme ça. Ça, c'est le cas de l'interprétation donc des résultats d'après un présupposé méthodologique, disons mono-méthodologique. Puis vous avez une deuxième hypothèse, c'est-à-dire le critique généticien qui se dit une méthode, non, ça ne va pas, je ne vais pas réussir à dire tout ce que j'ai à dire avec une méthode, je vais travailler, par exemple, avec un point de vue poétique ou narratologique et sociologique. Donc, je vais mélanger les deux et je vais avoir une prise beaucoup plus puissante sur les phénomènes qui ont lieu dans les brouillons, ou bien je vais prendre une méthode linguistique, je vais m'interroger à des formes, à la rhétorique, à la stylistique, etc., du texte, et aussi m'intéresser au savoir qui est mis en œuvre par ce texte. Je vais essayer de... Alors, là, on va avoir une sorte de croisement, qu'on pourrait appeler donc une approche multi-méthodologique. Ça peut être deux ou trois méthodes qu'on va mettre ensemble pour... approfondir, disons, le sens de la Genèse, en étant attentif dans la Genèse à des phénomènes multiples. Et enfin, je crois qu'il faut dégager l'hypothèse d'une troisième voie, d'un troisième point de vue, qu'il faudrait appeler une herméneutique génétique intégrale, qui se donnera l'ambition de croiser toutes les méthodologies susceptibles de rendre raison des phénomènes complexes qui ont lieu dans la Genèse. C'est-à-dire d'être, selon les besoins de l'événement, sociologue, linguiste, psychanalyste, rhétoricien, narratologue, mettre au service de la lecture des manuscrits toutes les possibilités issues des sciences de l'homme et des techniques d'approche du texte, de manière à ne rien rater de ces phénomènes tout à fait singuliers qui sont ceux de la Genèse. Et c'est évidemment à la fois une position indispensable, cette option intégrale, et impossible, puisqu'il faudrait avoir des capacités intellectuelles et culturelles considérables. Mais il faudrait surtout ne rien laisser tomber dans le matériel génétique qu'on a sous les yeux. Et pourtant, je dirais quand même à la faveur de cette troisième option qu'elle est induite par la nature même de la génétique. La génétique, comment dire, à la différence des méthodes d'analyse du texte, elles mettent en évidence des phénomènes complexes, vraiment complexes. Aucune rature n'a lieu pour une seule raison, sauf peut-être les ratures orthographiques. Bon. Mais si on met de côté les ratures normées par l'orthographe, toutes les autres ratures, de substitution, de suppression, d'ajout ou de dépassement, sont des ratures qui sont chargées. Elles ont au moins 3, 4, 5 ou 6 motivations quand elles ont lieu. Des motivations qui sont souvent d'ordre stylistique, phonique, mais aussi social, mais aussi référentiel, mais aussi psychologique. Et c'est la concentration, la focalisation de toutes ces dimensions qui provoque l'événement qui est une rature, qui va provoquer la transformation de l'expression. Or, si je ne suis pas capable de rendre raison de la multiplicité des causes qui produit cet effet, la rature, j'ai raté mon coup. Parce que si je ne vois dans la rature que les cas de rature où l'inconscient de l'écrivain est mis en demeure de faire cette rature parce que c'est son obsession ou parce que c'est son traumatisme, mais je vais évidemment perdre les 9 dixièmes des événements génétiques. Je dois aussi préciser que l'hypothèse, cette troisième hypothèse d'une génétique intégrale, qui n'est ni mono ni multi-méthodologique, mais qui cherche à regrouper toutes les possibilités méthodologiques, c'est un vieux rêve structuraliste. C'est le système des systèmes. C'est l'idée que tant qu'on n'arrivera pas à construire le système des systèmes, on aura raté l'essentiel qui est l'effet permanent de réseau que le sens entretient dans son travail propre. Alors vous voyez où je veux en venir. L'interprétation de la Genèse, l'élaboration du récit de Genèse, évidemment, il aura vocation à suivre, selon les choix du critique, les méthodes qu'il aura choisies, soit mono-méthodologiques, soit pluri- ou multi-méthodologiques, soit intégrales. Et ça ne sera pas le même récit de Genèse. Et je dirais que la notion même d'avant-texte, en tant que cette notion est branchée sur la disons l'étape immédiate qui est celle de la immédiatement suivante qui est celle de l'interprétation, la notion d'avant-texte elle est relativisée par ses choix. D'une certaine façon, il y aura autant d'avant-texte que de méthodes choisies pour l'interpréter. L'avant-texte étant l'ensemble des documents rendus intelligibles, c'est-à-dire lisibles, compréhensibles, mais encore avant, disons, et sans avoir jusque-là posé l'hypothèse interprétative. À partir du moment où vous interprétez, vous faites l'avant-texte sociologique, l'avant-texte narratologique, l'avant-texte de l'œuvre. Quoi. Alors, quoi en déduire sur ce qu'est le récit de Genèse ? J'ai essayé de dégager une dizaine de caractéristiques qui me paraissent fondamentales par rapport à ce que pourrait être, devrait être, ou est, quoi, le récit de Genèse. Le récit de Genèse se définit d'abord comme si on le fait par opposition, différence avec ce que peut être un discours critique synthétisant hein, dans la tradition critique. Quoi. Il se caractérise d'abord par le refus de l'éclectisme. Vous savez, je veux dire, par rapport à ce geste critique très habituel dans la tradition critique, qui consiste à dire Non, mais moi, je vais pas tout vous dire sur le texte, mais j'ai choisi deux. Voilà, vous parlez de ça, et c'est peut-être bien mon droit, et c'est, à mon avis, ce qui est le plus important dans le texte, tata. Voilà. Ça, c'est la tradition éclectique, hein, qui, donc, s'autorise une sorte de choix thématique. Alors, non, les récits de Genèse, par définition, il est lié à la prise en considération des traces, de toutes les traces, sans a priori et selon le régime de l'exhaustivité. C'est-à-dire que même si vous êtes sociologue, etc., pour ce qui est de l'entrée en matière de votre récit de Genèse, vous ne pourrez pas dissimuler le fait que si vous traitez la question sociologique exclusivement, vous laissez de côté tout un tas d'autres choses. Ce sera le minimum de... de clarté scientifique exigée que de faire l'état de la totalité du champ. On va plutôt se situer du point de vue, si vous voulez bien, d'un récit de Genèse très ambitieux, qui serait ni mono ni multi-méthodologique, mais intégral, hein, qui chercherait à donner le maximum de signification à cet avant-texte conçu le plus complètement possible. Donc la première chose, c'est l'exhaustivité. Et ça veut dire qu'a priori, quand vous racontez la Genèse de l'œuvre, vous faites comme vous avez fait comme chercheur, c'est-à-dire que vous n'avez pas établi a priori que telle trace était plus importante que telle autre. C'est fondamental. Peut-être que l'essentiel de ce qui s'est joué dans la Genèse d'une œuvre a eu lieu sur un bout de papier qui est un coin de nappe de bistrot sur lequel a eu lieu le déclencheur qui a provoqué la grande identité, l'originalité de l'œuvre. Peut-être. Peut-être que c'est pas du tout au moment où on le pensait que le moment de l'œuvre a eu lieu. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. C'est le classement qui permet de le savoir. Le classement, la transcription et la lisibilité. Après, l'interprétation que vous allez en faire vous permettra de hiérarchiser les éléments. Deuxièmement, donc j'avais dit interdit de l'éclectisme. Deuxièmement, intelligibilité séquentialisée. Ce que vous reconstituez dans la cite de Genèse, c'est des formes et des significations in statu nascendi, hein, étape par étape, au fur et à mesure de leur naissance, et sans préfiguration des aboutissements, évidemment. C'est-à-dire sans préfigurer les résultats définitifs comme ils vont être fixés dans le texte. D'ailleurs, fixé, c'est très relatif, le texte lui-même va bouger beaucoup. Mais, vous voyez, là, c'est tout à fait fondamental, cette intelligibilité séquentialisée, elle veut dire un barrage au mirage téléologique. Aucune préfiguration des résultats, aucune anticipation des processus. Il faut que le récit de Genèse soit capable de vous donner, à chaque étape, ce à quoi pouvait ressembler le projet dans la tête de l'écrivain au moment où il était en train d'écrire ça. Et à ce moment-là, il pouvait bien sûr anticiper, imaginer ce que serait la suite, mais vraisemblablement pas du tout sous la forme que ça a pris finalement. Alors ça, c'est le plus difficile, évidemment, c'est le plus compliqué, mais c'est le plus essentiel. Reconstituer les choses telles qu'elles étaient à cette étape-là. Et c'est un peu comme la scène du crime. Il n'y a pas encore eu tel et tel événement. Donc, cette question de la téléologie, elle va être donc vraiment décisive. C'est l'intelligibilité remise en place dans sa séquentialité. Troisième élément pour définir le récit de Genèse, ce que j'appellerais l'argumentation processuelle. L'ordre des raisons doit être construit selon l'ordre des processus. Ce sont les séquences de la Genèse, leur enchaînement, leur parcours, souvent d'ailleurs imprévisible, tout à fait variable, avec des naufrages, avec des retours en arrière, avec des anticipations, avec des bifurcations. C'est tout ça qui doit être mis en scène dans une argumentation qui suit d'aussi près que possible les processus. Alors vous allez me dire, bon, on peut pas tout, peut-être qu'il ne faut pas le faire pour tout le temps, mais quand on le fait, il faut le faire avec un zoom, par exemple, sur le détail même de ces transformations. Les grands moments de restructuration vont faire l'objet, par exemple, dans un récit de jeunesse, d'un zoom très, très précis, mais où il faudra reconstituer toutes ces hésitations, toutes ces formes, au fond, de processus. L'argumentation elle-même doit suivre ça au plus près. Quatrièmement, l'attention du chercheur à l'infinitésimal. Alors, ça, j'en parle, c'est un peu, c'est des conclusions que je fais par rapport, moins par rapport à ce qui s'est écrit en génétique que par rapport à mes recherches personnelles. Il me semble que les processus massifs en génétique, comme en histoire d'ailleurs, résultent de la coalition ou de la focalisation de tout petits phénomènes, infinitésimaux. Et c'est la masse de ces petites transformations qui tout d'un coup produisent les grands événements. En tout cas, il faut être attentif à cette infinitésimale. Et c'est la théorie de Leibniz. Une vague, ça peut devenir un tsunami, ça peut emporter tout. Mais qu'est-ce que c'est qu'une vague? C'est une infinité de gouttelettes. Chaque gouttelette, elle-même, elle n'a pas beaucoup d'effet, elle ne peut pas faire grand-chose. Mais si des milliards de gouttelettes se mettent en mouvement dans le même sens, globalement, et deviennent une sorte de masse énorme, alors son pouvoir est quasiment illimité. Et d'une certaine façon, la théorie de Mark Bloch de la nouvelle histoire, c'est un peu la même idée. On va y revenir. Cinquièmement, attention du chercheur à sa propre place. Ça, c'est un message que toutes les sciences de l'homme connaissent depuis toujours, mais qu'il faut quand même se rappeler, c'est toujours utile. Le chercheur a sa place dans le processus interprétatif, évidemment. Donc, il doit développer une relation maîtrisée à son propre point de vue, hein, c'est-à-dire à ses goûts, à ses préférences, à ses dégoûts, à sa situation historique. Il doit, au fond, pratiquer un peu la vertu flaubertienne de l'impersonnalité, essayer de chasser ses propres avis, ses préjugés, toute sa position historique par rapport au texte, de manière à être le plus neutre possible. Et quand il ne peut pas être neutre, il faut qu'il puisse déterminer dans quelle mesure il a modifié les choses par sa seule présence. Il faut avoir conscience de ce que la recherche change aussi dans l'objet même, hein, de la recherche. Reconfigurer une archive pour pouvoir l'interpréter, c'est la changer, l'archive. Vous voyez, quand, par exemple, quand je parlais du brouillon, le brouillon produit par l'écrivain, il n'est jamais dans l'ordre. L'écrivain, il écrit sur sa feuille, et puis d'un autre côté, il écrit sur une autre, puis après, il va prendre, puis il en met dans la poubelle, il en met partout. Et il n'y a jamais eu cet étagement des choses clairement construites les unes derrière les autres, qui va être l'avant-texte de l'œuvre. Donc, l'ordre que vous avez mis dans le chantier, et qui a détruit le côté chantier du chantier, est une prérogative qui modifie, d'une certaine façon, l'archive. Il faut en tenir compte. Sixièmement, effacement relatif du critique. Alors, là, je veux rappeler que dans la plupart des situations classiques, soit de l'histoire littéraire ancienne, soit de la nouvelle histoire littéraire scientifique, structurale et post-structurale, tout est fait pour donner aux critiques une place éminente. Le critique est donateur de sens. Il est celui par qui le sens est rendu à l'œuvre, en gros. Et on a vu dans les années 60, 70 et même 80 à quel point les critiques cherchaient non seulement à rivaliser avec les écrivains, avec les auteurs, mais à les dominer. De toute façon, la French Theory des années 60-70, c'était, d'une certaine manière, une façon pour les théoriciens de prendre la place des créateurs. Hein. On était plus fort que Proust en disant la vérité de Proust. On était plus fort que machin. Alors. Donc, il y avait cette espèce de culte du critique donateur de sens qui faisait du critique une sorte de puissance de la création. Alors par rapport à ça, Et ça, ça ne marchait que parce que le texte lui-même de l'écrivain était conçu comme une sorte d'épiphanie du sens, hein, que le critique avait le génie de rendre visible au public. Par rapport à ça, la génétique, évidemment, rabat beaucoup le caquet du critique. Le critique, il doit s'effacer. Il doit s'effacer dans l'archive. C'est l'archive qui devient pilote. Et le rôle du critique, c'est d'être capable de donner à l'archive toute sa place dans le discours sur l'œuvre. Septièmement, conscience historique intégrale. Je pense que le récit de Genèse, au fond, doit prendre conscience que la génétique, c'est la nouvelle histoire, celle de Marc Bloch, Le Goff, Nora, toute la nouvelle histoire, à l'échelle de la phrase. Et c'est ça le plus génie de la génétique. C'est d'avoir dit, ok, l'histoire a changé. L'histoire, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas la politique. C'est pas l'histoire, c'est aussi bien la démographie, le système monétaire, le prix du pain. C'est tout ça. Et bien, voyons ce que ça donne si on le fait dans le texte et à l'échelle de la phrase, à l'échelle des mots. La génétique, c'est comme la nouvelle histoire, la critique des vieux fantasmes. Hein. De cette façon, le texte est un fantasme. La génétique le démontre. Le texte, ça serait l'équivalent du fait historique pour l'historien, si vous voulez. Hein. Qui a été critiqué par la nouvelle histoire, terriblement. La prévalence de l'histoire politique sur toute autre forme d'histoire, c'est un peu la prévalence du texte aussi, sur toute autre forme de trace par rapport à l'œuvre. Comme la nouvelle histoire, il s'agit de céder de toutes les sciences de l'homme, économie, sociologie, linguistique, psychanalyse, etc., c'est ce qu'on disait tout à l'heure, histoire des sciences, démographie, ethnologie, pour penser la jeunesse de l'œuvre. Et du même coup, être attentif aussi à ce que la nouvelle histoire a pu mettre en place du côté de ce que je désignais tout à l'heure par infinitésimale. Cette logique qui fait que de menus faits, qui se reproduisent tous les jours, finissent par devenir une logique historique massive. Comment, pour comprendre la guerre de 1914-1918, il faut vraisemblablement remonter à la guerre de 100 ans. Et à la manière dont, systématiquement, un phénomène, une logique d'antagonisme se construit jusqu'à produire la Première Guerre mondiale. Huitièmement, scientificité de l'argumentation. Alors, oui, bien sûr, le récit de Genèse est un discours de vérité. C'est un discours scientifique qui doit avoir toutes les caractéristiques de la scientificité, telle qu'on l'a définie, du moins, dans les sciences de l'homme. Hein. C'est-à-dire, c'est un discours de vérité qui tient compte de tout ce qui a été dit précédemment, déjà, hein, sur son objet, par d'autres. C'est un discours qui privilégie la clarté, la systématicité, la contextualisation, le respect intégral des données, et ça, c'est pas rien. C'est toutes les traces que vous avez à votre disposition, vous devez en tenir compte et ne rien mettre sous le tapis. Même les choses qui sont gênantes par rapport à votre interprétation, il faut en tenir compte. C'est un discours qui doit procéder à l'évaluation des degrés de certitude, c'est-à-dire capable de dire « ça, c'est sûr ». Ça, c'est hypothétique, ça, c'est plutôt conjectural. Et c'est un discours qui doit pouvoir, le cas échéant, intégrer des techniques quantitatives, des courbes, des fréquences. Par exemple, je m'étais amusé à le faire pour Flaubert, on peut définir quantitativement des courbes de développement d'un avant-texte en montrant que selon les techniques d'écriture, la masse de l'écrit nécessaire à l'écrivain pour produire le texte définitif, à partir d'un scénario initial, va varier d'une façon très, très conséquente en forme. Hein, le profil de développement génétique d'un texte de Balzac, c'est une courbe comme ça. Le profil de développement d'un texte flaubertien, c'est une courbe qui fait comme ça. Pas du tout la même chose. Et on peut quantifier C'est relativement simple. C'est beaucoup de travail, mais c'est relativement simple. Et ça peut s'automatiser aussi. Donc le discours du récit de Genèse est scientifique au sens où il peut aller jusqu'à l'intégration d'outils scientifiques au sens des sciences dures. Des sciences dures, des probabilités, des statistiques. C'est d'ailleurs ce qui finira par lui assurer un statut de discours de vérité réel. Parce que tant qu'on en est... Tant qu'on est avant le quantitatif, on a du mal à parler de science. Mais, à côté de la scientificité de l'argumentation, je dirais, point 9, la séduction de l'énonciation narrative. Le récit de Genèse est un récit, avec toutes les caractéristiques et les séductions du storytelling, c'est-à-dire narration en temps réel des processus d'écriture, reconstitution des circonstances de l'écriture, description intérieure des processus mentaux, résurgence du passé de l'écrivain, souvenir personnel de l'écrivain, suspense dans le récit de l'argumentation. Suspense, rebondissement, écho, leitmotiv. Ben, toutes ces structures du récit qui font le talent narratif doivent être présentes dans le récit de Genèse. Au fond, tout doit s'écrire en tenant compte à la fois des ressources du genre narratif et en tenant compte... ces ressources du genre narratif sont analysées par la narratologie. Et en tenant compte, bien sûr, des attentes du public. On ne fait pas le même récit de Genèse en 1980 et en 2020, parce qu'il s'est passé des choses entre-temps et que le public n'est pas sensible... aux mêmes choses. Et c'est ça qui est très complexe à tenir. La scientificité, l'exhaustivité et néanmoins une attention au public, c'est-à-dire à l'horizon d'attente, qui fait que vous allez pouvoir séduire, entraîner avec vous votre public en fonction de son propre horizon d'attente aussi. Enfin, et ceci permet de mettre quand même un petit peu de sécurité dans ce qui pourrait être un abus non scientifique du récit, ce que j'appellerais la problématisation discursive. C'est-à-dire que le récit de Genèse, en tant que récit, c'est-à-dire en tant que Genèse-récit, quoi, il doit être capable de contester de l'intérieur son propre point de vue pour reformuler les questions en termes de discours, ou d'un autre récit, par exemple pour explorer ses propres limites, en tant que Genèse problème. Vous voyez, comme la nouvelle histoire a refusé l'histoire faite pour produire l'histoire problème. Il y a des moments où je suis confronté à l'inconnaissable. Je suis confronté à ce qu'on ne sait pas. Par exemple, ce qui s'est passé dans le cerveau du type, pendant que entre telle date et telle date, deux traces totalement différentes de la même chose, vraisemblablement, il s'est passé des choses, je ne suis pas capable de dire ce qui s'est passé. Mais je constate ces différences. Bon, je peux proposer à mon public une hypothèse. Si j'ai quelques éléments pour me raccrocher à un récit plausible, je les présente en tant que tel, et je raconte ce qui est qui a peut-être eu lieu dans la tête du type, ou bien si j'ai rien, j'arrête de raconter mes histoires, au sens propre, et je dis, ben là, on ne sait pas. Voilà. Et je dis, pourquoi on ne sait pas, et jusqu'à quel point on ne sait pas. Et puis on reprend le récit de Genèse vers ce qu'on sait. Donc je pense que cette problématisation discursive, elle est fondamentale. Elle est liée à ce que j'appelais la nécessité de construire une hiérarchisation des certitudes. Coefficient de certitude totale, hypothétique, conjecturale. Et on peut peut-être encore affiner ces différences. Conclusion. Si je suis à la fois devant l'exigence d'une scientificité qui va jusqu'au quantitatif et face à l'exigence d'un récit séduisant, capable de plaire au public, au lecteur, de le séduire, de le mettre en empathie et de le faire participer quoi, à la compréhension du processus de création, eh bien, je suis en face d'une sorte d'exigence qui ressemble au mentir vrai d'Aragon, c'est-à-dire à quelque chose qui est à la fois un discours scientifique et un travail d'artiste. Et je crois qu'il faut que la génétique, ça, on ne l'a peut-être pas suffisamment développé dans les années où on a construit cette discipline. Et pourtant, c'est fondamental. Il faudrait y revenir. La génétique est un art, plus qu'une science. Voilà. Et c'est ce que nous disait Louis Aragon en 1977-1981, quand il nous a légué, à nous, ses manuscrits. Il a écrit un texte qui s'appelle comment ? Qui s'appelle D'un grand art nouveau, la recherche. Et il savait ce qu'il disait. Il voulait dire, je vous donne mes manuscrits. Bon, vous allez pouvoir en constituer un certain nombre de choses, mais il y a plein de trucs que vous n'arriverez pas à comprendre, parce que c'est dans la tête, tout simplement. Mais vous arriverez néanmoins à les faire comprendre, si vous êtes assez artiste. Ah oui, il y a un paradoxe, mais il y a quelque chose de très important, c'est l'acceptation que dans les sciences de l'homme, on ne soit pas sous le même régime de vérité que dans les sciences dures ou dans les sciences exactes. Cette acceptation, elle n'est pas totalement claire hein, dans des organismes comme le CNRS, par exemple. Et pourtant, elle est décisive, elle est fondamentale. Et le récit de Genèse, il se tient exactement à ce point de contact entre la science et l'art. Mais un chercheur qui ne serait que scientifique, qui n'aurait pas l'ombre d'un don, d'un talent artistique pour écrire, ben, je suis désolé, il n'arrivera pas à grand-chose. Celui qui n'est qu'artiste, qui se moque complètement des traces, et, ben, il ne fait même pas de la génétique, donc c'est pas la peine d'en parler. C'est la convergence de ces deux dimensions qui fabrique les conditions de possibilité du récit de Genèse. Et je rappelais Aragon, il va y avoir un numéro de Genesis sur Aragon qui va sortir, donc j'ai consacré un texte au sens de ce legs et au sens de ce rapport qu'Aragon nous a donné, hein, comme une sorte de bouteille à la mer, quoi, entre art et science. Ayez le courage de considérer votre science comme un art. Voilà.